c'est une volonté du pays d'appeler ça la K-pop pour justement établir ce soft power coréen.
Longtemps, le marché de la K-pop a été dominé par le Big Three, les trois plus grosses entreprises du secteur. SM, YG, JYP ont désormais été rejoints par HYBE, l'entreprise du phénomène BTS.
BTS ont des telles surfaces de notoriété que se balader avec BTS, c'est profiter de la notoriété de BTS très clairement.
Lorsque je travaille avec des compositeurs étrangers, ils sont toujours surpris de la manière dont nous mélangeons des genres musicaux très différents dans nos chansons.
J'ai 20 ans et j'ai envie de devenir une star de la K-pop. Et ça fait 2 ans maintenant que je m'entraîne pour devenir une idol.
Les Blackpink sont donc les queens incontestées du moment et battent tous les records.
Blackpink ont battu un record absolu du clip le plus vu en une seule journée. 90 millions de vues en une journée.
France Culture. La série musicale. Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre, toujours curieuse, qui se balade et qui cherche à se surprendre, à vous surprendre. Format réduit de la série musicale sur France Culture, 42 minutes de radio sur la musique et en musique. Vous êtes sur France Culture, c'est la série musicale, bienvenue. Pourquoi parler de K-pop aujourd'hui avec vous ? Dans la série musicale, une émission qui vous donne à entendre de la musique. Parce qu'évidemment, les records battus par ce genre, mais peut-être pourrait-on dire cette culture, ne cesse de s'amonceler. Pourquoi en parler ? Car finalement, quand on parle de K-pop en France, on parle extrêmement peu de musique. La K-pop, c'est avant tout un mouvement culturel, un élément de soft power, une véritable culture, et pourtant les morceaux que vous allez entendre sont écoutés quotidiennement des milliards de fois par jour. En réalité, ils ne fonctionnent jamais vraiment tout seuls. Ces morceaux sont indissociables de ceux qui les portent, c'est-à-dire les idoles, chanteurs, chanteuses, souvent en groupe, qui ont été sélectionnés à l'issue de plusieurs années de travail acharné par des maisons de disques qui fonctionnent aujourd'hui comme des écuries. Ces chansons, elles sont la plupart du temps accompagnées de clips, de chorégraphies surtout, et fonctionnent aussi avec un univers graphique. Tout cela marche ensemble. Que devient une chanson de K-pop lorsqu'elle est isolée au son ? Certainement un petit chef-d'œuvre de maîtrise, performance extrêmement chiadée, musique qui fonctionne bien, trop lisse. Qu'est-ce que c'est véritablement la K-pop ? Elle est destinée, on le sait, à produire, c'est celui qui l'épouse, ce qu'on appelle en coréen le hangul, c'est-à-dire une joie irrépressible. De construire ce sentiment presque mécaniquement, scientifiquement, les fondateurs des plus grandes maisons de production de K-pop le revendiquent. C'est ce qu'on appelle le Hallyu, la technologie culturelle coréenne qui est à l'œuvre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une véritable création ? Est-ce que la K-pop, qui est une reprise essentiellement de la musique noire américaine, fait en réalité de l'appropriation culturelle, ou est-ce qu'elle réinvente musicalement une forme d'hybridation qui annonce le monde qui vient ? De quoi la K-pop musicalement est-elle vraiment faite ? On tente évidemment, modestement, de répondre dans la série musicale sur France Culture.
We'll be right back. 바람이 흐르고 흐리면 누군가가 나를 떠나버려야 한다는 그 사실을 그 이유를 이제는 나도 알 수가 있어요. 사랑을 한다는 말을 못했어. 어쨌거나 지금은 너무 늦어버렸어. 그때 나는 무엇 하고 있었나. 그 미소는 너무 아름다웠어.
Vous écoutez ici le groupe qui sans doute signe l'acte de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la K-pop. Nous sommes en 1992 et dans la série la plus regardée du pays, Saturday Night Music Show, un célèbre télécrochet où les vedettes de demain se présentent, la Corée découvre totalement sciée ce groupe, Seo Taiji and the Boys. On est donc en 92 et c'est la toute première fois que ce qu'on appelle le hip-hop, ce mouvement qui évidemment... Fait vivre tous les États-Unis, notamment New York, fait son irruption dans le paysage coréen. Vous l'entendez ici, on a vraiment les boîtes à rythme très caractéristiques du hip-hop, avec des élans de métal, vous l'entendez aussi, hein. On a une guitare qui, elle, fait plutôt référence à des groupes comme Metallica, cette espèce de mélange hybride, le tout chanté en coréen. Ils sont les derniers ce soir-là hein, dans le télécrochet. Clairement, la Corée est choquée, c'est Seo Taiji and the Boys. Mais néanmoins, ils ont durablement marqué Shinsedae, c'est-à-dire la jeune génération X qui est en train de les regarder à la télévision. Ils vont préfigurer, d'une certaine manière, l'engouement total de ce pays, en tout cas de cette jeune génération coréenne, pour cette musique hybride qui n'a quasiment plus rien de coréen, à part, évidemment, et c'est crucial, les personnages qui la chantent, les textes et les problématiques abordées. Car oui, à ce début, la K-pop a de vraies questions politiques. Et d'ailleurs, si on fait remonter la K-pop à des origines encore plus lointaines, certains chercheurs vous diront que ce qu'on appelle la K-pop aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le croisement de la musique occidentale avec la rencontre avec des auteurs-compositeurs coréens. C'est le cas par exemple dès les années 70, pas de toute une génération de Coréens, soit qui naît en Corée et émigre aux États-Unis, soit qui est issu de l'immigration coréenne aux États-Unis, Asian American. C'est le cas de Han Dae-soo, qu'on appelle le Bob Dylan coréen, qui dans les années 70 était très écouté en Corée avec son tube protestataire profondément rock, Give Me Water. Point. La voix éraillée, les cheveux ébouriffés, la liberté donc de Han Dae-soo dans les années 70 fait clairement tache dans cette Corée qui se relève d'une guerre extrêmement violente. Il va être arrêté pour détention de marijuana et dans une société néo-confucéenne qui cherche à se relever, il est tout simplement, tout bonnement interdit de se produire en Corée. Han Dae-soo, il ne reviendra dans son pays qu'à la fin des années 90, après donc l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la K-pop et de ses Otaji and the Boys. Entre-temps, dans les années 80, l'influence occidentale était extrêmement forte dans ce qu'on a appelé l'ère des ballades en gros, en coréen. C'est en gros l'idée que les Coréens pouvaient s'inspirer des ballades R&B et assez lancinantes à la Barbara Streisand. C'est évidemment ce qui prévaut dans les années 80. Est-ce qu'il s'agit véritablement de K-pop ? En tout cas, certaines des grandes figures de cette ère de la ballade des années 80 assez cheesy vont faire de vrais retours dans les années 80, puis 90, puis 2000 en justement collaborant avec des stars de la K-pop. Celui qu'on appelait le prince de la ballade, qui a aujourd'hui l'âge canonique de 50 ans, c'est Byunjin Soob dans Like the Birds ici. Petite note assez haute en falsetto chantée ici par Byunjin Soob, vous l'entendez, hein. On est sur une tradition à l'occidentale de la ballade sentimentale, extrêmement sentimentale. Mais revenons-en à ces Otaji and the Boys, toujours dans les années 90. Qu'est-ce qui finalement change dans cette arrivée de la K-pop ? C'est d'une certaine manière l'irruption d'une musique dite urbaine qui ne vient pas évidemment de Séoul, qui ne vient pas de la culture coréenne, où en réalité le genre populaire jusqu'ici c'était ce qu'on appelle le trot ou teoroteo, qui est une espèce de musique chantée en coréen qui mêle ballade et qui est d'une certaine manière un genre musical un peu qui correspond à l'enka japonais, c'est-à-dire la musique populaire née pendant la période coloniale dans les années 20, qui est une espèce de chanson nostalgique qui peut ou pas comprendre les instruments traditionnels coréens et les méthodes de chant. Ce qu'il se passe avec l'entrée en scène de ces Otaji and the Boys et de toute une série d'autres groupes, c'est une fameuse fracture générationnelle. Ce sont ces jeunes du début de la génération milléniale qui sont en rupture totale avec leurs parents. Eux évoluent dans une Corée qui a fait un bond dans la modernité, où les inégalités sont néanmoins extrêmement fortes et la pression sur les jeunes absolument énorme. C'est Otaji and the Boys la chante justement, la fracture générationnelle en Corée. Ils chantent surtout l'oppression totale du système éducatif coréen, extrêmement pesant. Quand on est un étudiant, un petit garçon, une petite fille en Corée, on travaille jusqu'à 10-15 heures par jour. Dans leur deuxième album, c'est ce qu'ils dénoncent justement dans une collaboration avec un groupe de métal, dans cette chanson Classroom Idea, qui va beaucoup marquer la Corée, qui sera interdite. La réputation du groupe est tellement sulfureuse qu'on les accuse de délivrer des messages satanistes dans leurs chansons et dans leurs clips. We'll be right back. Alors, cette musique ancêtre de la K-pop qu'on écoute aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'elle est assez curieuse, surprenante. Vous avez entendu ici ce mélange, cette rencontre absolument improbable entre du métal assez pure classe, hein, pur jus, de ce groupe avec qui Seotaji and the Boys collaborent sur ce titre Classroom Idiot, censé qui nous décrit l'enfer de la vie quand on est un jeune en Corée et qu'on est donc sommé de produire et d'être extrêmement bon. C'est une critique très radicale dans ce morceau où on trouve évidemment cette manière aussi de mixer, de jouer avec les platines très présentes dans la culture plutôt hip-hop américaine et ces textes très énervés de rap en coréen. Ça nous donne une assez bonne idée des espèces d'hospices sous lesquels la K-pop naît. Néanmoins, le fait que ces chansons soient extrêmement politiques et qu'elles soient donc touchées par la censure, notamment à la télévision, va de manière générale orienter les producteurs vers un son de moins en moins politique, de plus en plus propre, de plus en plus néo-confucéen. Mais néanmoins, ce qu'il restera sans doute de cette première expérience de la K-pop et de ce premier groupe fondateur, c'est la capacité improbable à tout mélanger, à tout mixer et surtout à faire entrer dans les oreilles des Coréens et du reste de l'Asie et du monde cette musique donc du hip-hop mais aussi noire américaine, les influences profondes que vont avoir sur la K-pop, le jazz, le hip-hop, toute une culture noire américaine à laquelle en réalité les Coréens étaient exposés depuis longtemps, car après la guerre de Corée, les bases américaines sont nombreuses, les soldats sont eux aussi la plupart du temps noirs américains et les maisons de disques qui vont porter cette politique de la K-pop, elles misent volontairement sur l'importation de cette musique populaire américaine. Et parmi les profils les plus importants, les inventeurs du modèle de la K-pop, il y a Suman Lee, qui est le directeur de la plus puissante maison de disques qui porte la K-pop, c'est-à-dire SJ Entertainment. Lui avait été MC dans les années 70 en Corée. Et c'est évidemment parce qu'il est parti aux États-Unis dans les années 80 pour devenir, ce n'est pas inintéressant, ingénieur informatique, qu'il découvre MTV, la puissance des clips de rap, et qu'il a cette révélation, la musique qui s'entend va être remplacée par une musique qui se voit. C'est lui qui va inventer ce fameux modèle où les maisons de disques vont sélectionner des jeunes, très jeunes chanteurs, danseurs, les entraîner jusqu'à l'épuisement, choisir les meilleurs, constituer ex nihilo des groupes de filles, de garçons, qui peuvent réunir 3 jusqu'à parfois 12, 15 membres et mettre aux platines de très bons producteurs, compositeurs de musique dite urbaine. C'est ce qui va très bien marcher avec un groupe dans les années 98 comme One Time, dont la plupart des protagonistes sont encore aujourd'hui très présents dans l'industrie de la K-pop, vous allez l'entendre. Mais alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que cette K-pop que l'on construit dans les années 90, après le succès de Seotaji and the Boys? Eh bien, vous allez l'entendre, c'est un mélange de ce qui se fait le mieux aux États-Unis. Par exemple, Justin Timberlake, Like I Love You, ce chanteur de R&B, je vous en ai souvent parlé, expert dans l'art du falsetto, qui a, d'une certaine manière, incorporé et blanchisé les meilleures techniques de chant du R&B. Écoutez, ça donne par exemple ça au début des années 90.
One time, two. 지도 못 소리지 왜 알아듣지 못한 말로 지껄이지
Yo, T to the T 이제는 말하지
Excuse me 사라져버려
모두 다가가 진실들을 향해 전부 다가가 느끼니
우리 힙합 속에 감춰진 자유 그 누구도 따라 할 수 없는 걸 절대 거부서 빨리 모든 걸 너희들이 가려줄 시간들이 눈앞에서 있지
Yo, 이제 모두 가
깨달아야 하지 함께 원티 YM을
크게 외쳐봐 우리는 영원할 거야 That's right
보다 멀리 더 멀리 날아가리
저 높은 곳에 우리 모두 하나가 되리
One time is one time for your mind 원하는 것을 다 너에게 주겠어
One Time, première, en tout cas deuxième génération fraîche de ces groupes masculins et féminins, on verra qu'il y a les deux, de K-pop. Alors vous l'avez entendu, hein, assez intéressant cette version. Plusieurs cultures en fait de R&B, de hip-hop qui se côtoient dans ce morceau qui est vraiment un morceau hybride, une création totale. Il faut se dire que quand ce morceau sort en 98, ça fait à peine 6 ans que la Corée est soumise à ce type de son, qu'elle le chante. Vous pouvez reconnaître évidemment dans les falsettos très doux et la version assez amoureuse, quelqu'un comme Justin Timberlake, Like I Love You, sorti l'année précédente.
Love you or the hating when it doesn't matter anyway, cause we're here tonight.
Justin Timberlake, vous entendez hein, l'influence sur la façon de chanter des One Time, ce groupe créé ex nihilo, mais avec en son sein plusieurs personnages qui vont compter, notamment un certain Teddy Park, qui, non content d'être l'un des chanteurs principaux de cette formation, hein, qui va avoir un énorme succès en Corée, mais aussi au Japon, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, va devenir l'un des principaux compositeurs et producteurs d'une autre écurie, l'écurie YG. Mais c'est une autre affaire, vous l'avez entendu, dans One Time For Your Mind, qui a donc été l'un des plus gros succès de la K-pop des années 98. Il y avait le fameux Wah 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 Yuppie Yuppie, extrêmement puissant, on l'a déjà dit, hein, il vient en fait d'un son issu finalement de la funk, mais il y avait Snoop Dogg qui l'avait évidemment repris. Et bien sûr, Lil Bow Bow, qui est un jeune rappeur dans une version beaucoup plus proprette. Écoutez-la.
And then 2K my way, I'm the first to rock, first to drop. Nice in the bezel of a G-Shock, like Big and Pac. I'm hard to forget. What makes it even worse? I'm just getting started.
Lil Bow Wow, 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 yuppie, yuppie. Vous l'avez entendu, hein. Y a une reprise dans cette chanson de One Time. Pourquoi est-ce que c'est cette version qu'on vous passe? Parce que c'est la version la plus proprette. En réalité, les références, l'espèce de mélange qui surgit, qui survient, qui frappe les oreilles quand on écoute une chanson comme celle de ce fameux groupe de garçons One Time, c'est comment il s'agit finalement d'une espèce de cadavre exquis, des chansons qui fonctionnent bien, des façons de chanter qui fonctionnent bien aux États-Unis, mais les versions toujours les plus propres. Justin Timberlake, hein, qui est dans une version très proprette du R&B, une version aussi assez blanche. Lil Bowow, qui est le rappeur des enfants, c'est un peu la stratégie. Mais en réalité, la manière d'écrire, elle arrive très très bien à nouer, à mettre ensemble ces deux approches de la musique dite urbaine et celle aussi, plus traditionnellement coréenne. C'est ce qu'expliquait justement Soon Man Lee, le producteur superstar de la K-pop, âgé aujourd'hui d'une soixantaine d'années, celui qui a d'une certaine manière théorisé, mis en place cette industrie de la K-pop qui racontait justement la manière dont il faisait de la musique dans le film Génération K-pop diffusé sur Arte en 2023.
Lorsque je travaille avec des compositeurs étrangers, ils sont toujours surpris de la manière dont nous mélangeons des genres musicaux très différents dans nos chansons. D'après eux, c'est la grande force de la K-pop, et c'est ce qui fait son succès. Ailleurs, quand un artiste fait du hip-hop, par exemple, il se limite à ce style de musique. Même chose pour la musique électro. Les styles musicaux sont clairement compartimentés. Ça a évidemment certains avantages. Dans la K-pop, nous faisons fusionner les meilleurs éléments de tous les genres.
Day 6, Shoot Me, on est au mi-temps des années 2000, le son est un énorme succès. Hein. Day 6, c'est un autre groupe de garçons, alors là on est resté sur les garçons, mais toute une foule de groupes de filles existent aussi. Les groupes de filles d'ailleurs ont une durée de vie en général beaucoup plus courte que celle des garçons, qui sont souvent les idoles garçons autorisés à devenir producteurs et à donc avoir une deuxième vie, tandis que les filles, quand elles ont passé l'âge fatidique de l'adolescence et de la jeunesse, elles sont assez vite invitées à quitter le monde de la musique. Alors là, vous entendez cette fameuse fusion, cette fameuse capacité à changer de style dont parlait Soon Man Lee. La chanson démarre, hein, vous l'avez entendu, Shoot Me, sur une thématique plutôt hip-hop. Ensuite, elle vrille vers une version rock américain si typique des années 2000 et on croirait presque entendre les Américains de Maroon 5 de This Love. Adam Levine est donc ce rock américain, ce rock qui influence profondément les différents groupes d'idoles coréennes qui font elles aussi du rock. Mais on l'aura entendu, l'idée c'est qu'en réalité un groupe corresponde parfaitement à une demande quand elle existe. Et cette demande elle va grossir car vous l'avez entendu, la naissance de la K-pop c'est les années 90 en Corée. Or en 97, le pays traverse une crise économique majeure à l'instar du Japon et comprend très bien que pour continuer à survivre, le marché coréen ne suffit plus. L'idée est donc d'aller vendre des disques non seulement en Corée mais aussi au Japon, dans toute l'Asie, la Chine, l'Asie du Sud-Est. Et finalement, l'Europe et les États-Unis restent des cibles sur lesquelles, évidemment, on lorgne sans vraiment y croire. Ce qui est en réalité assez vrai, c'est que pendant les 15 ans qui séparent l'avènement de Ceotaji and the Boys et le triomphe de Psy avec Gangnam Style, qui devient la vidéo de très loin la plus vue de l'histoire de YouTube en 2013, il y a eu tout un lent travail, patient travail, de poussée de la K-pop, qui devient de plus en plus écouté à la fois en Corée et dans le reste de l'Asie, avec toujours cette stratégie industrielle dont on parle beaucoup et qui encore aujourd'hui fascine des jeunes trainees, stagiaires, qui sont formés d'abord dans des écoles de musique, puis ensuite par des maisons de disques, qui forment, déforment, reforment des groupes à l'envi et qui, d'une certaine manière, ces maisons de disques créent ex nihilo, vous l'avez entendu, des chansons qui sont, d'une certaine manière, la recette magique et très lisse pour qu'un son fonctionne à un moment donné. Et soudain, ce fameux Gangnam Style de Psy, que pour le coup, personne n'avait vraiment vu venir.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일
Gangnam Style, c'est un peu la vraie surprise de ce succès de la musique K-pop. Alors pourquoi ? Parce que des groupes de filles, de garçons qui sont absolument calibrés dans leur musique, dans les clips et dans les chorégraphies qu'ils proposent pour séduire à peu près tous les peuples de toutes les nations, il y en avait déjà beaucoup au moment où cette chanson triomphe. Ce qui est étonnant ici, c'est que Psy est plutôt un chanteur vraiment extrêmement coréen, dans le sens où il a tout un personnage extrêmement drôle. C'est sans doute le personnage le moins lisse, c'est cette chanson Gangnam Style, qui évoque le quartier, l'un des quartiers d'affaires, l'un des quartiers les plus chics de la capitale, Séoul, fait référence surtout à des personnages, des archétypes de la vie proprement coréenne. Et pourtant, ce clip, sans doute parce qu'il est l'un des moins lisses, parvient à fasciner le monde entier. Et c'est là, d'une certaine manière, que les choses s'accélèrent pour la K-pop, de mieux en mieux armée, de plus en plus en lien avec des bases de fans qui sont de plus en plus nombreuses dans le monde entier. Les industries coréennes font feu de tout bois. Il y a évidemment le groupe masculin BTS que vous avez entendu dans le générique de cette série musicale concoctée par Colin Gruel et qu'on ne vous repassera pas. BTS dont le studio est entré en bourse, c'est vous dire le succès. Et ce studio, grâce à ce groupe qui n'était vraiment pas l'un des plus puissants, est devenu l'une des entreprises les plus riches de Corée. Il y a un autre phénomène, et celui-là, c'est celui d'un groupe de filles. Elles s'appellent les Blackpink. C'est un groupe qui a émergé à la toute fin des années 2010. C'est aujourd'hui le groupe de filles le plus successful de l'histoire de la musique. Elles sont quatre. Et c'est très intéressant car elles sont évidemment omniprésentes à l'image. On reviendra sur leurs personnages respectifs. Mais celui qui produit, qui compose leur musique n'est autre que Teddy Park, c'est-à-dire l'un des membres de ce fameux groupe One Time, que vous avez entendu il y a une dizaine de minutes. Il expliquait lors d'un documentaire sur les jeunes femmes paru sur Netflix en 2020 comment la stratégie du hit parfaitement calibré ne suffisait presque plus avec elle.
I'm the producer, songwriter.
C'est moi le producteur des filles. J'ai écrit, produit la plupart des chansons de Blackpink depuis les débuts. Ça fait 4 ans maintenant. Bon, au début, la stratégie, c'était single, smash, hit, single. Mais là, en fait, il va falloir qu'on raconte quelque chose de plus profond, de plus naturel. Et on sait que les femmes attendent, ils en veulent toujours plus. Et ici, on a beaucoup de chansons, mais on choisit très méticuleusement ce qu'on va faire paraître. Chaque groupe, évidemment, dans la K-pop a sa propre culture. Mais ce qui, évidemment, est notre force, c'est la combinaison des filles. C'est ça qui fait qu'elles sont exceptionnelles, toutes ces cultures mélangées. Rosé, est-ce que tu veux essayer de chanter sur ce morceau-là? Blackpink dans ce morceau Shutdown qui évidemment est une petite merveille, ce sample du rondo à la turque de Nicolas Paganini qui devient la base d'une chanson de R&B dansante. L'énorme succès de ce groupe, c'est d'être un groupe de filles qui revendique une identité badass, d'où la juxtaposition de black pour noir et de pink pour rose. C'est surtout un groupe avec 4 jeunes femmes qui ont été sélectionnées très méticuleusement pour pouvoir couvrir toutes les bases de fans que leur maison de disques souhaite toucher. Parmi elles, on trouve 2 coréennes, Jennie et Jisoo. Jisoo étant celle qu'on appelle la face, c'est-à-dire la plus jolie, celle qui chante finalement le moins. Mais il y a 2 recrues intéressantes, Rosé, que vous entendez ici, qui est elle australienne coréenne, c'est-à-dire qu'elle a été élevée en Australie par des parents coréens. Elle ne parlait pas la langue qu'elle chante ici dans cette chanson avant d'être recrutée par cette écurie. Elle est là pour plaire justement à la fois aux immigrés, les Asian Americans, mais aussi aux Coréens qui sont fiers de reconnaître en elle à la fois l'une des leurs dans une version très occidentale. L'immense star de ce groupe, c'est Lisa Oulalisa, qui est elle thaïlandaise. C'est la rappeuse du groupe. À savoir presque la Rihanna, elle est thaïlandaise, elle a été donc recrutée en Asie du Sud-Est. À L4, elle couvre d'une certaine manière tout ce que la K-pop souhaite toucher, c'est-à-dire une Asie un peu plus populaire, évidemment les États-Unis, l'Australie et l'Europe. Ça marche évidemment très bien. Est-ce que la K-pop c'est uniquement ça aujourd'hui? On peut dire que non, car quand on parle de K-pop, on pense évidemment à BTS et à Blackpink. Mais aujourd'hui, ceux qui l'écoutent vous diront que ce que désigne ce terme, ce n'est absolument pas la musique, mais évidemment plutôt un système industriel. Musicalement, même si tout se ressemble beaucoup, on distingue toute une série de courants, de sous-courants. Par exemple, K-Indie, qui serait donc l'indie-rock coréen, qui triomphe notamment grâce aux petits dramas coréens. Évidemment, ce sont ces séries télévisées dans lesquelles de nombreux idoles chanteurs se produisent en tant qu'acteurs. Parmi celles qui ont eu le plus de succès, il y en a qui, dans les années donc 2020-2021, les années du confinement,
moment ont de plus en plus marché. C'est le cas de la chanteuse Rio. Vous allez entendre ici qu'elle revendique d'une certaine manière l'idée d'être une forme de Françoise Hardy de la K-pop en 2021. La K-pop et ses divers courants distinguent aussi la K-rap, la K-funk aujourd'hui. On vous signale l'existence de la rappeuse Moon, qui est une franco-sénégalaise qui a décidé de lancer sa carrière en coréen. Et c'est un trajet que l'on suivra. Cette émission, trop courte évidemment, a été préparée par Lou Quevauvier, l'attaché de production de la série musicale. Je vous signale la parution aux éditions de La Martinière en début de cette année de Hallyu K-Culture, la vague coréenne. Un livre passionnant pour appréhender ces questions. C'est Colin Gruel qui réalisait cette émission et c'est Anthony Thomasson qui était à la technique. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster la série musicale sur toutes les bonnes applis. On préfère toujours celle de Radio France.